Est-ce que vous souffrez d'allergies saisonnières? L'herbe à pousse, ça vous dit quelque chose? Le rhume des foins? Je vous propose une lecture fort intéressante de M. Claude Lavoie, Herbe à pousse, 100 ans de guerre contre le rhume des foins. C'est aux éditions Multimonde. Il a accepté notre invitation. M. Lavoie, bonjour.
Bonjour.
M. Lavoie, vous êtes biologiste et professeur titulaire à l'École supérieure d'aménagement du territoire et de développement régional de l'Université Laval, c'est ça?
Exactement.
Et vous êtes un expert des plantes exotiques envahissantes comme l'herbe à poux. Pourquoi avoir décidé de vous attaquer? Est-ce que je peux dire que c'est un monument, l'herbe à poux, parce que ça touche de nombreuses régions et beaucoup de gens aussi, là?
Bien, la raison première, c'est que c'est la plante la plus nuisible au monde. Je connais pas beaucoup d'espèces végétales qui rendent malades 120 millions de personnes au travers de la planète. Pas juste en Amérique du Nord. En passant, c'est une plante nord-américaine.
Oui.
Elle est exotique, entre guillemets, dans des régions périphériques comme la péninsule gaspésienne ou encore le Nouveau-Brunswick. Mais c'est essentiellement une plante nord-américaine. Mais elle a aussi investi et occupé d'autres continents, l'Europe, l'Asie, l'Australie, etc. Et c'est pour ça qu'elle est si nuisible et qu'elle affecte autant de personnes à travers le monde.
Qu'est-ce qui fait qu'elle se retrouve comme ça un peu partout sur la planète, M. Lavoie?
C'est une plante annuelle, donc elle se propage essentiellement grâce à ses semences. Et ce sont des semences que j'appelle occultes. Elles sont toutes petites. Et comme c'est une plante qui occupe aussi les champs agricoles, communément appelée une mauvaise herbe, bien évidemment, lorsqu'on exporte soit des grains ou encore du fourrage, bien souvent, cette plante-là ou les semences agissent comme contaminants et peuvent se retrouver un peu partout. Et en fait, si elle est aussi répandue en Amérique du Nord, c'est essentiellement pour cette raison-là, mais c'est également aussi la cause de l'exportation de cette espèce-là dans les continents comme l'Europe et l'Asie, soit comme contaminant dans les fourrages ou encore dans les semences.
OK. Moi, je me rappelle lorsque j'étais tout jeune, là, toute petite fille, on me disait « touche pas à l'herbe à poux, fais attention parce qu'on allait avoir des démangeaisons et tout ça ». Mais il me semble qu'on parlait pas, il y a quoi, une quarantaine d'années passées, là, de rhume des foins avec l'herbe à poux. Est-ce que je me trompe ou ça a toujours été le cas?
Bien là, il y a une confusion des genres. C'est que si on vous disait de ne pas toucher à cette espèce-là, c'est pas l'herbe à poux, c'est plutôt l'herbe à puce.
Ah oui, OK. Qui
ne ressemble en rien, absolument en rien à l'herbe à poux, soit dit en passant, parce que l'herbe à poux, c'est une plante vivace, ça ressemble à un tout petit arbuste. Et elle aussi engendre des allergies, mais ce sont des dermatites, donc c'est pas du tout la même chose. Effectivement, il faut pas toucher à l'herbe à poux, parce que là, vous risquez d'avoir des problèmes. L'herbe à poux, c'est une plante qui provoque des allergies, mais des rhinites allergiques à cause du pollen. Et si on peut se sauver assez facilement de l'herbe à poux en n'y touchant pas, malheureusement, se sauver du pollen de l'herbe à poux, un plant peut en produire des milliards. C'est beaucoup plus compliqué et c'est certaines personnes, maintenant dans les régions les plus envahies, on parle d'une personne sur cinq quand même, là, vous allez avoir le fameux rhume des foins et c'est assez incommodant, même si c'est pas mortel, on s'entend là-dessus.
Avec ce livre « Herbe à poux », on se rend compte que l'herbe à poux, ça existe depuis très longtemps, là.
Ah, ça existe depuis des milliers, sinon des millions d'années. Mais ça a probablement été... en fait, il y en a toujours eu probablement dans la Nouvelle-Angleterre, enfin, depuis le retrait des glaciers, 100 ans, et dans l'extrême sud du Québec. Mais avec l'expansion... D'abord l'expansion de l'agriculture, évidemment, parce qu'on lui a créé un habitat. C'est une plante de milieu ouvert. Avant, il y avait de la forêt. Ben, si on coupe la forêt, ben, évidemment, on lui crée un habitat. Ensuite, il y a l'expansion du réseau ferroviaire. Ça a créé un habitat, mais ça a aussi permis de faire voyager plus rapidement les grains, les semences et donc les semences d'herbe à poux.
Oui.
Mais ultimement, c'est vraiment l'expansion du réseau routier. Alors, les routes, particulièrement en Amérique du Nord, sont formées, évidemment, lorsqu'elles sont asphaltées, elles sont formées d'un accotement assez large. Et l'accotement, l'habitat par excellence de l'herbe à poux. Pas tant qu'elle aime ça, tant que ça, parce que c'est un aliment, c'est pauvre, c'est pauvre un aliment nutritif, etc. Mais c'est une des rares plantes qui est capable de s'en accommoder. Elle n'a pas de compétition végétale et elle ne souffre pas de la compétition. Elle ne résiste pas à l'ombre. Donc, si on lui crée un habitat par excellence, ben ma foi, elle prolifère. Et en Amérique du Nord, au sud de la forêt boréale, on n'est jamais à plus d'un kilomètre d'une route. Hein. Donc, vous pouvez vous imaginer la quantité d'habitat qu'on lui a créé, ce qui lui a permis de proliférer.
Oui. Mais pour ce qui est des allergies comme telles, là, vous le dites, hein, c'est le pollen de l'herbe à poux qui est la principale cause du fameux rhume des foins, là, les allergies saisonnières. Mais est-ce qu'on a Depuis quand on peut... Est-ce qu'on a des chiffres à savoir quand on a commencé à souffrir d'allergies en raison de l'herbe à poux?
Probablement au début du 19e siècle. Bon, entendons-nous, ça existait certainement avant, mais à partir du 19e siècle, les gens ont commencé à être davantage affectés, mais encore là, c'est une conséquence de la création d'un habitat en expansion, la déforestation, la création des chemins, les chemins de fer qui sont arrivés un petit peu plus tard, et aussi l'expansion même de la plante et son exportation dans d'autres continents. Le rhume des foins, ça va être décrit seulement à partir des années 1820 comme symptôme, mais plutôt en Europe. Et là, c'est pas l'herbe à poux, là. Il y a d'autres espèces qui peuvent causer le rhume des foins. Mais en Amérique du Nord, c'est surtout, je vous dirais, à partir de 1850-1860, où là, les gens vont devenir très affectés, au point que vers la fin du 19e siècle, il va y avoir l'émergence de refuges touristiques contre le rhume des foins. Ce sera le cas notamment au New Hampshire dans les Montagnes Blanches, mais également autour de la, au Québec, comme par exemple à Tadoussac, à la Malbaie. Certains établissements des Maritimes aussi vont vanter dans leur publicité qu'ils sont des refuges contre la hay fever, contre le rhume des foins, et vont attirer ainsi une manne touristique très importante qui perdurera jusqu'à l'invention des antihistaminiques dans les années 1950.
Ouais. Est-ce qu'il y a différentes sortes d'herbes à poux?
Il y en a deux pour l'essentiel. Il y a la petite et la grande herbe à poux. Les deux espèces se rencontrent en Amérique du Nord, mais celle qui cause vraiment le plus de ravages, à la fois pour en ce qui concerne les allergies, mais aussi comme mauvaise herbe agricole, il ne faut pas l'oublier, là, c'est une des principales mauvaises herbes, d'autant plus qu'elle est très résistante aux herbicides, c'est la petite. C'est vraiment celle qui est la plus foisonnante, non seulement en Amérique du Nord, mais aussi ailleurs dans le monde.
L'herbe à poux, vous le dites, c'est une mauvaise herbe. est-ce qu'elle a un rôle quand même, cette herbe-là?
Ben, si on regrette pas mal, c'est une plante pionnière. Hein? Donc, si vous labourez un champ et vous le laissez à l'abandon ensuite, c'est souvent une des premières espèces qui va occuper l'espace. Parce qu'il n'y a pas de compétition végétale, il y a beaucoup d'ensoleillement. Donc, elle va faire un travail réparateur, en ce sens qu'elle va contribuer à réenrichir en matière organique, va stabiliser le sol, etc. Et elle va disparaître très rapidement. Hein. Si vous laissez le champ à friche, après 2-3 ans, il n'y en aura plus, parce qu'elle ne souffre pas de la compétition végétale. Okay. Maintenant, des plantes réparatrices qui font ce travail-là, il y en a beaucoup d'autres. Donc, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir l'herbe à poux pour faire ce travail-là. Mais si on remonte là, à l'origine, là... certains disaient cette plante, c'est une erreur de la nature. Ben, maintenant, oui, on pourrait dire ça parce qu'elle affecte beaucoup les humains, mais à l'origine, c'était son rôle donc de réparer les sols qui avaient été dénudés pour toutes sortes de raisons.
Est-ce que c'est possible de la détruire complètement?
Ah ben, on s'est essayé. C'est un peu l'essence de mon livre. Alors, je relate toutes les tentatives historiques qui ont été faites.
Oui.
Il y a eu toutes sortes de choses pendant la récession, la grande récession des années 30. Par exemple, à Chicago, chaque jour, 4200 personnes, des ouvriers, des gens désœuvrés, allaient arracher l'herbe à poux en ville pour la somme de 25 sous par jour. Alors, imaginez. Après ça, bon, une fois la guerre venue, ça a disparu. Après ça, on a utilisé des doses massives d'herbicides. À New York, chaque été, dans les années 40 et 50, on pulvérisait 3,2 millions de litres d'herbicides en ville, qui était absolument hallucinant. Après ça, il y a eu des campagnes avec des enfants. Elles ont généralement été inefficaces à une grosse exception près, tout autour de la péninsule gaspésienne. Alors, entre 1935 et 1955, j'avais un agronome, Edgar Campagna, qui lui va se donner comme mission d'éradiquer l'herbe à poux de la Gaspésie, et il va réussir.
Ah oui?
C'est la seule personne à avoir réussi ça. Et on parle de millions. Au début, pensait qu'il y en avait quelques centaines. Il y en avait quelques millions. Mais il va y réussir pour toutes sortes de moyens, mais notamment en mettant au travail les écoliers. Donc, il y a 5500 écoliers qui vont arracher l'herbe à poux autour de leur village. Et en 1955, ils vont avoir complètement éradiqué l'herbe à poux, qui est toujours, pour l'essentiel, absente de la péninsule. Et d'ailleurs, cette campagne-là va faire des petits, notamment quand Campagna va devenir un consultant pour le gouvernement du Nouveau-Brunswick et pour le gouvernement de la Nouvelle-Écosse. Est-ce que c'est pour ça qu'il n'y en a pas tant que ça, finalement, dans ces deux provinces-là, surtout au Nouveau-Brunswick, dans le Nord? La question se pose, mais clairement, ça va avoir inspiré. Mais il n'y a pas beaucoup d'exemples comme ça. En général, l'espèce est tellement foisonnante que c'est très difficile de s'en débarrasser.
Est-ce que vous souffrez du rhume des foins, M. Lavoie?
Malheureusement, non. Donc, c'est pas pour cette raison-là que j'ai écrit. Oui, la question se pose. Il y avait par contre beaucoup de monde qui en souffre.
Oui, oui.
Mais malgré le fait que c'est une plante qui est vraiment dévastatrice pour la santé et pour les terres agricoles, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une certaine fascination pour cette espèce-là. Mm-hmm. Parce que s'il y a une plante qu'on a essayé d'éliminer de la surface de la planète, c'est celle-là, et on n'y est jamais parvenu. Comme quoi, la nature, parfois, est plus forte que nous, quoi qu'on en dise.
Ah ouais. Mais c'est fort intéressant. J'invite les gens à se procurer votre livre, Herbe à poux, 100 ans de guerre contre le rhume des foins. C'est aux éditions Multimonde, Claude Lavoie. Monsieur Lavoie, vous avez aussi lancé l'année dernière un autre livre fort intéressant. Je commence d'ailleurs la lecture, là. Pissenlit contre pelouse, une histoire d'amour, de haine et de tondeuse. Ça, c'est un autre livre fort intéressant, là.
Oui, bien, en fait, je raconte dans ce livre comment se fait-il qu'on a appris à détester à ce point le pissenlit, qui est une plante, somme toute, plutôt inoffensive. Mais là, évidemment, quand on parle de pissenlit, il faut parler de la pelouse. Donc, oui. Je raconte l'évolution de l'un et de l'autre. C'est une enquête qui m'a vraiment fasciné. J'ai fréquenté pendant 2 ans de temps, notamment les réseaux sociaux d'amateurs inconditionnels de la pelouse impeccable. C'est très intéressant. Mais on comprend mieux pourquoi, avec l'aide de l'industrie, il y a de la pelouse, faut-il le dire.
Ouais.
Les gens ont appris à détester cette espèce-là qui, somme toute, est plutôt inoffensive, mais qui ne plaît pas à tout le monde. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire.
Ouais, les gens n'aiment pas trop ça, avoir ces petites fleurs jaunes-là là, qui poussent à travers un beau gazon vert.
Effectivement.
Monsieur Claude Lavoie, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. J'invite les gens à se procurer donc vos publications Herbe à poux et pissenlit contre pelouse. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bel été.
Merci. Au revoir.